Pourtant, je m'étais fait mettre. Je m'étais fait mettre des ressorts. Des ressorts.
Des ressorts. Cosmorama.
Cosmorama. Pourtant.
Pourtant, je parle d'une vie nouvelle. C'est un peu toujours la même chose, un peu toujours pareil.
Quand même toujours un peu pareil.
C'est que le temps de mon existence est court. Ma vue assez mauvaise.
Ma tête plutôt pire.
Et ma tête plutôt pire, pour ce qui est de comprendre ceci, cela, de saisir ceci, cela. De disparaître en plongeant. J'envisage difficilement la hauteur.
plusieurs fois, je m'assure qu'il y a assez d'eau. Qu'il y a bien de l'eau.
Pourtant, ensuite, je me retrouve ailleurs. Je sais qu'après quelques gestes, les choses changent.
J'ai une image, un sentiment, disons, absurde. Je crois que je vais plonger, de haut, dans une piscine, qui est vide.
Les choses changent. Je ne connais plus personne. La forme des rues, des magasins ou des collines n'est plus la même.
Et ensuite, le plus souvent, je redescends du plongeoir. Ou plutôt, le plongeoir disparaît.
Les choses changent. Les voix que je pourrais entendre, la forme des préoccupations de chacun, comment on est habillé, et la lumière m'attire, me fait du bien. La lumière me fait du bien.
Tu comprends peut-être cela. Ou ça te fait penser à certaines difficultés passagères et qui parfois reviennent.
Je m'arrête. Je prends le temps de regarder, d'imaginer ce que je vais faire. Le changement m'apporte une sorte de calme, d'apaisement.
Et sans compter qu'en effet, il y a juste un an ou deux que j'ai, pour la première fois, plongé du simple bord de la piscine.
Une manière d'apaisement ensoleillé.
Il se passait, là, quelque chose. Comme une peur sans raison véritable. Ou une peur de faire autrement. D'être quelqu'un d'autre.
J'attrape quelques nouveaux objets avec de nouveaux mouvements, des bras, des jambes. Ou bien le temps n'est plus fait pareil, il n'y a plus de coupure, il n'y a plus vraiment de répétition.
Il me semble que j'ai longtemps regardé les autres plonger, sans bien comprendre. Ou plutôt comme si j'étais à l'extérieur. Puis, donc, je suis parvenu à faire partie de ces choses nouvelles. Tu crois? Disons, tu veux. Tu désires.
Cosmora, mage, Cosmora, gage, Cosmora, langage.
Thank you. Donc tout ça, ça joue chez les animaux. C'est ça qui me fascine. Ce qui me fascine, en gros, c'est tout le domaine des signes. Les animaux émettent des signes. Ils ne cessent pas d'émettre des signes. Ils produisent des signes, c'est-à-dire, au double sens, ils réagissent à des signes. Par exemple, une araignée, bon, tout ce qui touche sa toile, elle ne réagit pas à n'importe quoi. Non. Elle réagit à des signes et il laisse des signes, il produit des signes. Par exemple, les fameux signes, est-ce que c'est un signe de loup, ça? Est-ce que c'est un loup? Est-ce que c'est autre chose? J'admire énormément les gens qui savent reconnaître, par exemple, les chasseurs, les vrais chasseurs, pas les chasseurs de société de chasse, mais les vrais chasseurs qui savent reconnaître l'animal qui est passé par là. À ce moment-là, ils sont animal. À ce moment-là, ils ont avec l'animal un rapport animal. C'est ça, avoir un rapport animal avec l'animal. C'est formidable.
Et mais c'est cette émission de signes, cette réception des signes qui rapproche de l'écriture et de l'écrivain, l'animal.
Oui. Si Dieu me dirait qu'est-ce que c'est pour vous qu'un animal, je répondrais c'est l'être aux aguets. C'est un être fondamentalement aux aguets.
Mais comme l'écrivain ?
Pour moi, l'animal, c'est. Tu vois les oreilles d'un animal, mais il fait rien sans être aux aguets. On ne laisse jamais tranquille. Hein. On ne laisse jamais tranquille un animal. Il mange, il doit surveiller s'il lui arrive dans le dos, si quelque chose lui arrive dans le dos, s'il lui arrive à côté, etc. C'est terrible, cette existence aux aguets. C'est... Alors tu fais le rapprochement avec l'écrivain, quel rapport il y a entre l'animal et l'écrivain ?
Tu l'as fait avant moi.
C'est vrai. Je suis fait. C'est. Il faudrait presque dire à la limite un écrivain, bon, qu'est-ce que c'est ? Il écrit, bien sûr, il écrit pour des lecteurs, un écrivain. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ? Ça veut dire à l'intention d'un. Un écrivain qui soit. Il écrit à l'intention de lecteur. En ce sens, il écrit pour des lecteurs. Mais il faut dire aussi que l'écrivain, il écrit pour des non-lecteurs. C'est-à-dire pas à l'intention d'un, mais à la place d'un. Pour, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à l'intention et puis ça veut dire à la place. J'écris pour les analphabètes, j'écris pour les idiots. Faulkner écrit pour les idiots. Ça ne veut pas dire pour que les idiots lisent, ça ne veut pas dire pour que les analphabètes le lisent, ça veut dire à la place des analphabètes. Je veux dire, j'écris à la place des sauvages, j'écris à la place des bêtes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on ose dire une chose comme ça? J'écris à la place des analphabètes, des idiots, des bêtes. Eh bien, parce que c'est ça que l'on fait à la lettre quand on écrit. Quand on écrit, on ne mène pas une petite affaire privée. C'est vraiment les connards, l'abomination de la médiocrité littéraire de tout temps, mais particulièrement actuellement, qui fait croire aux gens que pour faire un roman, par exemple, il suffit d'avoir une petite affaire privée, sa petite affaire à soi, sa grand-mère qui est morte d'un cancer, ou bien son histoire d'amour à soi, et puis voilà, et puis on fait un roman. Mais c'est une honte, quoi. C'est une honte quand c'est des choses comme ça. C'est pas l'affaire privée de quelqu'un à écrire. C'est vraiment se lancer dans une affaire universelle. Et que soit le roman ou la philosophie, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que écrire, c'est forcément pousser le langage. Et pousser la syntaxe, parce que le langage, c'est la syntaxe. C'est pousser la syntaxe jusqu'à une certaine limite. Limite qui quoi? Ben, qu'on peut exprimer de plusieurs manières. C'est aussi bien la limite qui sépare le langage du silence, que la limite qui sépare le langage de la musique, que la limite qui sépare le langage de... quelque chose qui serait quoi? Ben, mettons, si je dis le piaulement douloureux. Le piaulement douloureux, tout le monde se dit, bon, ben oui, ben Kafka, c'est, C'est la métamorphose, hein. Le gérant qui s'écrie, vous avez entendu, on dirait un animal. Piaulement douloureux de Grégoire, ou bien le peuple des souris, on écrit pour le peuple des souris.
Je les filme.
Pour le peuple des rats qui meurent, en effet. Parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas les hommes qui savent mourir ou qui meurent, c'est des bêtes. Et les hommes, quand ils meurent comme des bêtes. Là, alors, on revient au chat, et avec beaucoup de respect, ben, j'ai eu... parmi les nombreux chats qui se sont succédés ici, il y a un petit chat qui est mort assez vite. Hein. C'est-à-dire, j'ai vu ce que beaucoup de gens ont vu aussi, comment une bête cherche un coin pour mourir. S'il y a un territoire pour la mort aussi, il y a une recherche du territoire de la mort, du territoire où l'on peut mourir. Et ce petit chat qui essayait de s'enfoncer dans une encoignure, dans un angle, etc., comme si c'était l'endroit bon pour mourir pour lui. Oui, en sens... Si l'écrivain, c'est bien celui qui pousse le langage jusqu'à une limite, limite qui sépare le langage de l'animalité, qui sépare le langage du cri, qui sépare le langage du chant, à ce moment-là, il faut dire oui. L'écrivain, il est responsable devant les animaux qui meurent. Et être responsable devant les animaux qui meurent, c'est-à-dire répondre des animaux qui meurent. Écrire, bon, à la lettre, pas pour eux. Encore une fois, je ne vais pas écrire pour mon chat, pour mon chien, mais écrire à la place des animaux qui meurent, etc. C'est porter le langage à cette limite. Et il n'y a pas de littérature qui ne porte pas le langage et la syntaxe à cette limite qui sépare l'homme de l'animal. Ben, il faut être sur cette limite même. Moi, je crois pas. Même quand on fait de la philosophie, hein, c'est ça. Même quand on fait... On est sur la limite qui sépare la pensée de la non-pensée.